Certaines professions sont à haut risque. Tout le monde sait que pilote d'essai est un métier plutôt dangereux. Le laveur de vitres d'un gratte-ciel a intérêt à s'assurer qu'il est bien amarré et celui qui travaille dans l'industrie chimique doit prendre des précautions particulières afin de garantir sa santé. Et puis, il y a eu les prophètes de l'Éternel qui sont tous passés par de très mauvais moments. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Et si Dieu n'était pas intervenu, il leur aurait servi de casse-croûte. Ézéchiel a eu le privilège d'être appelé au ministère prophétique, mais il va en pâtir parce qu'il doit parler aux Israélites exilés qui sont en rébellion contre leur Dieu. Je commence à lire le second chapitre du livre d'Ézéchiel. « Dieu me dit, fils d'homme, tiens-toi debout, car je vais te parler. » Verset 1. Quand Ézéchiel a reçu la vision de la gloire de Dieu, il est tombé face contre terre. D'autres prophètes et l'apôtre Jean ont eu des expériences similaires. Le titre « fils d'homme » est très fréquent chez Ézéchiel, 93 fois, alors que le prophète Daniel n'est appelé ainsi qu'une seule fois. Jésus aussi s'est donné ce titre presque 90 fois. Il voulait par là souligner son humanité, son humiliation et ses souffrances en tant qu'homme. Ici, « fils d'homme » sert à établir un contraste entre le Créateur et sa créature, entre la faiblesse du prophète et la toute-puissance de l'Éternel qui lui parle et qui veut se servir de lui pour venir en aide à son peuple exilé. Et pour venir en aide à son peuple exilé, affaibli, abaissé et humilié. Dieu lui rappelle ainsi qu'il ne peut rien faire de lui-même, mais que sa force pour accomplir l'œuvre qui lui est confiée lui vient de l'Éternel. Ézéchiel devient donc le porte-parole de la puissance que Dieu se prépare à manifester dans le jugement imminent de son peuple et dans son rétablissement futur. Je continue. « Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout. » Et j'entendis celui qui me parlait. Verset 2. Dieu ne donne pas seulement des ordres, mais également le pouvoir de lui obéir. Ce passage évoque l'œuvre spéciale et fréquente du Saint-Esprit sous le régime de l'Ancien Testament. Son rôle était de rendre quelqu'un capable d'accomplir la mission que Dieu lui confiait. À cette époque, et contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, le Saint-Esprit ne faisait pas sa demeure permanente chez les croyants, mais intervenait chez certaines personnes d'une manière épisodique en vue d'un ministère spécifique. À ce sujet, il faut rappeler que l'homme n'a pas en lui-même la capacité de servir Dieu. Moïse a dû faire un séjour de 40 ans dans le désert avant de se rendre compte qu'il ne pouvait pas, tout seul comme un grand, délivrer le peuple hébreu des griffes du Pharaon. Il avait tellement bien appris la leçon que cette idée lui était complètement sortie de la tête et il vivait paisiblement à garder ses troupeaux. Alors, quand l'Éternel est venu lui donner son ordre de mission, il a fait des pieds et des mains pour ne pas y aller. Finalement, il a bien été obligé d'obtempérer et a fait d'une bande d'esclaves une nation qu'il a conduite dans le pays promis. Si Moïse a réussi, ce n'est pas qu'il était surdoué, mais bien plutôt que Dieu l'accompagnait dans tout ce qu'il entreprenait. Je continue le texte. « Dieu me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers cette foule de rebelles qui se sont révoltés contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs ancêtres se sont soulevés contre moi. » Verset 3. « Foule rebelle est littéralement païen rebelle. » Un terme qui était réservé aux non-israélites. Mais si l'Éternel les appelle ainsi, c'est à cause de leur idolâtrie. Le peuple élu avait tellement dégénéré que sur les plans spirituels et moraux, il était au même niveau que les nations environnantes qui adoraient une flopée de divinités et s'adonnaient à des pratiques horribles. Ce n'est pas la seule fois que Dieu rabaisse ainsi Israël. Le prophète Ésaïe l'appelle Sodome et Gomorre. Et le prophète Osée lui donne le prénom de « pas mon peuple ». Ézéchiel dit ici que les Israélites sont en révolte jusqu'à ce jour. ce qui signifie que l'exil du roi Jéhoiakim et des 10 000 personnes qui représentaient la crème de Jérusalem n'avait pas amené le peuple à se repentir. Tout au long du livre, Ézéchiel mentionne souvent la rébellion de toute la nation contre l'Éternel. Le moins qu'on puisse dire est que les Israélites avaient la tête et surtout le cœur dur. Ça me fait penser que dans ce qu'on appelle la chrétienté, parmi ceux qui sont religieux, beaucoup ont la même attitude que les Israélites. Ils fréquentent peut-être un lieu de culte, mais dans leur cœur, ils rejettent Jésus-Christ. Ils ne le diront jamais ouvertement, mais dans la réalité, ils l'ont remplacé par des rites et une certaine pratique morale, et ils refusent d'entendre qu'ils sont pécheurs et ont besoin d'un sauveur, parce que ils se trouvent trop bien pour ça. Je continue le texte. « C'est vers ces gens à la tête dure et au cœur insensible que je t'envoie pour que tu leur dises. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Alors, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter, car c'est une communauté rebelle, ils sauront du moins qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » Versets 4 et 5. Malgré la rébellion ouverte d'Israël, l'alliance que l'Éternel a conclue avec ses ancêtres subsiste et c'est afin d'y demeurer fidèle qu'il leur envoie le prophète Ézéchiel. Même s'ils ne l'écoutent pas, quand les menaces qu'il prononcera se seront accomplies, ils seront obligés de reconnaître qu'ils avaient été avertis et ne pourront donc s'en prendre qu'à eux-mêmes. Je continue. Quant à toi, fils d'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs paroles, bien que tu sois au milieu d'orties et de ronces et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs paroles et ne tremble pas devant eux, car c'est une communauté rebelle. Tu leur transmettras donc mes paroles, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter à cause de leur entêtement. Versets 6 et 7. Tout comme il l'avait fait lors de la vocation d'Ésaïe et de Jérémie, l'Éternel ne cache pas à Ézéchiel la difficulté de la tâche à laquelle il l'appelle et les vives oppositions qu'il rencontrera. En effet, il va devoir adresser les censures divines à un peuple au caractère violent, hargneux et vindicatif. Ça va pas être tous les jours dimanche. Je finis le chapitre 2. « Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas toi-même rebelle comme cette communauté rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Je regardais et je vis une main tendue vers moi qui tenait un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Il était couvert d'inscriptions au recto et au verso. C'étaient des plaintes, des lamentations et des cris de malheur. » Versets 8 à 10. Normalement, on écrivait que sur un côté d'un parchemin. Mais les péchés du peuple d'Israël étaient si graves et leur jugement si sévère qu'il culminera dans la destruction du royaume de Juda, de Jérusalem et du Temple. Ces malheurs inouïs engendreront tellement d'expressions de douleur que Dieu les avait écrites sur les deux côtés du parchemin. Jérémie annonçait au peuple de Jérusalem la venue de ce châtiment depuis déjà longtemps avec insistance et en pleurant. Il en avait le cœur brisé, exprimant ainsi la douleur de Dieu. Une première déportation avait déjà eu lieu, mais comme la ville et le temple n'avaient pas encore été détruits, les Israélites s'étaient endurcis et des faux prophètes disaient que Dieu allait intervenir et que les exilés rentreraient bientôt chez eux. C'était évidemment un mensonge, et Jérémie était toujours à pied d'œuvre, allé combattre à Jérusalem, tandis qu'en Babylonie, Ézéchiel annonçait lui aussi le jugement à venir aux exilés. Je commence à lire le chapitre 3. « Celui qui me parlait me dit, « Fils d'homme, mange ce qui t'est présenté, avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. » Versets 1 et 2. Ézéchiel doit assimiler la parole de Dieu qui lui est révélée et à faire sien le contenu du message qu'il va devoir proclamer à son peuple. Cette scène est une vision alors que le prophète était en état de transe. Il n'a donc pas mangé physiquement un parchemin. Ce passage me fait penser aux paroles de Jésus quand il a dit « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi a la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Jésus voulait dire par là que la vie éternelle est donnée à celui qui l'assimilait et faisait sien son message. Il s'agit d'une foi en lui intime et très personnelle. Je continue le texte. « Puis il me dit, fils d'homme, nourris ton corps et remplis ton ventre de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc, et dans ma bouche il fut doux comme du miel. » Verset 3. Il est doux de recevoir une révélation et de se trouver sous l'action de l'Esprit divin. Toutefois, Ézéchiel expérimentera aussi l'amertume due à ce message de jugement et à la rébellion de son peuple. L'apôtre Jean fit la même expérience. Je continue le texte. Il ajouta, « Fils d'homme, va rends-toi auprès des Israélites et communique-leur mes paroles. Car ce n'est pas vers un peuple qui parle une langue difficile et inintelligible que tu es envoyé, mais vers la communauté d'Israël. Si je t'envoyais vers de nombreux peuples à la langue difficile et inintelligible, dont tu ne comprendrais pas les paroles, eux, ils t'écouteraient. Mais la communauté d'Israël vers laquelle je t'envoie ne voudra pas t'écouter, car ils ne veulent pas m'écouter. En effet, tous ces Israélites sont des gens à la tête dure et au cœur insensible. » Versets 4 à 7. Dieu dit, « Je t'envoie non vers un peuple qui ne peut pas, mais qui ne veut pas t'écouter. » La difficulté du ministère d'Ézéchiel ne provient pas de circonstances extérieures qu'il est toujours possible de surmonter, comme apprendre une langue étrangère, par exemple. Le problème auquel le prophète va être confronté est de taille parce que intérieur et de nature morale. Les Israélites ne voudront pas l'écouter parce qu'ils refusent d'obéir à Dieu. Je continue. « Eh bien, je vais te donner un visage aussi obstiné que le leur et un front aussi résolu que le leur. Je vais rendre ton front aussi dur que le diamant, plus dur que le roc. Ne les crains donc pas et ne tremble pas en leur présence, bien que ce soit une communauté de rebelles. » Versets 8 et 9. Littéralement, le texte dit « J'ai rendu ton front fort comme le diamant. » Le mot « fort » est la racine du nom Ézéchiel, qui veut dire « Dieu fortifie ». Dieu dit donc à son prophète, « Je te rendrai aussi obstiné dans la fidélité à ton mandat qu'ils sont obstinés dans leur rébellion. » Ézéchiel était d'un tempérament plus fort que ne l'était Jérémie, qui lui avait le cœur tendre et la larme facile. Je continue. Puis il ajouta, « Fils d'homme, écoute attentivement tout ce que je vais te dire et prends-le bien à cœur. Puis va te rendre auprès de tes compatriotes déportés et qu'ils t'écoutent ou qu'ils refusent de t'écouter, dis-leur. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Alors l'Esprit me souleva et j'entendis derrière moi une grande clameur. Loué soit la gloire de l'Éternel du lieu où elle demeure. » Versets 10 à 12. Les paroles qu'Ézéchiel a entendues forment un contraste saisissant entre la sphère sainte où retentissent ces voix angéliques et le triste état du peuple d'Israël où le prophète doit maintenant retourner. Sa participation à l'adoration du culte céleste fut sans nul doute un puissant encouragement, un coup de fouet en quelque sorte, qui lui donna le courage dont il avait besoin pour mener à bien son ministère. Je continue. « Je perçus aussi le bruit que faisaient les ailes des êtres vivants en battant l'une contre l'autre et en même temps celui des roues et la grande clameur. Alors l'esprit me souleva de terre et m'emporta. Je partis le cœur plein d'amertume et d'indignation tandis que la main de l'Éternel agissait sur moi avec force. » Versets 13 et 14. L'impression pénible que le prophète ressent provient du contraste violent entre ce qu'il vient de quitter et ce qu'il retrouve, surtout qu'en plus, il partage les sentiments de Dieu au sujet du peuple rebelle et fait sienne sa colère. La forte poigne de l'Éternel sous-entend que la scène céleste est terminée et qu'il est grand temps pour Ézéchiel de se mettre à pied d'œuvre. le privilège d'avoir vu la gloire de Dieu et entendu le chant des anges lui confère une responsabilité plus grande encore. Je continue. J'arrivais ainsi auprès des exilés à Tel Aviv chez ceux qui habitaient sur les bords du fleuve Kébar, car c'est là qu'ils demeuraient. Je restais là 7 jours, hébété au milieu d'eux. Verset 15. Ézéchiel a profondément été marqué par la vision qu'il a reçue. Alors son retour sur terre avec ses tristes réalités est particulièrement difficile. De plus, il appréhende la tâche qui l'attend. On comprend. 7 jours correspond aussi au temps d'investiture des prêtres selon la loi de Moïse. Je continue. Au bout de ces 7 jours, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, j'ai fait de toi une sentinelle pour la communauté d'Israël. Quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Versets 16 et 17. Les vrais prophètes qui transmettent les messages de l'Éternel au peuple et l'avertissent du jugement qui le menace peuvent à juste titre être comparés à des sentinelles. Jadis, quand les villes étaient entourées de remparts, ceux qui la gardaient jouaient un rôle important pour la sécurité des habitants. À la nuit, les portes étaient fermées et à l'époque féodale, on remontait également le pont-levis. Ensuite, les sentinelles se postaient sur la partie la plus élevée des remparts ou effectuaient des rondes jusqu'au matin. Pendant tout le temps de leur garde, ils scrutaient l'horizon et écoutaient tous les bruits, étant à l'affût de la moindre anomalie annonciatrice d'un danger. Ézéchiel est une sentinelle spirituelle, mais il n'aura pas une obligation de résultat. Il devra seulement rester fidèle à la parole de Dieu. Je continue. Quand je dirai au coupable, tu vas mourir. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ce coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite pour obtenir la vie sauve, alors, certes, ce coupable mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Si par contre, tu as averti le coupable et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, ni de sa conduite coupable, il mourra pour sa faute. Mais toi, tu seras déchargé de ta responsabilité. Versets 18 et 19. Une sentinelle avertit d'un danger, mais ce que les gens font de cet avertissement ne dépend pas de lui. La mission du prophète est de prévenir les pécheurs du jugement qui les guette de manière à ce qu'ils se repentent et changent de façon de vivre. C'est tout ce que Dieu lui demande et il ne sera pas tenu responsable de la conduite qu'adopteront les Israélites. Mais s'il ne s'acquitte pas fidèlement de sa tâche, alors il se rendra coupable à l'égard de ceux qui mourront à cause de leur faute. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ ont eux aussi une responsabilité vis-à-vis des non-croyants. Ils doivent les informer que Dieu est en colère contre eux et qu'ils seront jugés pour leurs péchés à moins qu'ils n'acceptent Jésus comme leur sauveur, sachant qu'il n'existe aucun autre refuge que lui. Cette vérité s'applique à tous les êtres humains où qu'ils vivent et quelle que soit leur culture ou religion. En parlant de Jésus, l'apôtre Pierre a déclaré « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Je continue le texte. « De même, si un homme juste se détourne de sa conduite juste pour faire le mal, parce que j'aurais placé quelque occasion de chute devant lui, et s'il meurt pour n'avoir pas été averti, certes, c'est à cause de sa faute qu'il mourra, et l'on ne tiendra pas compte de sa conduite juste du passé. Mais je te demanderai compte de sa mort. Mais si tu as averti l'homme juste pour qu'il ne commette pas de faute et qu'effectivement il n'en commette pas, alors il vivra pour avoir entendu tes avertissements, et toi, tu seras déchargé de toute responsabilité. » Versets 20 et 21. Ici encore, l'accent du passage porte sur la responsabilité du prophète d'avertir le pécheur. Si un Israélite a été fidèle à l'Éternel toute sa vie et qu'un jour il dévie du droit chemin, il annulera toutes les années antérieures de droiture. S'il est averti et revient de sa mauvaise conduite, tout rentre dans l'ordre. Mais si le prophète ne l'avertit pas, il sera jugé, tandis que le pécheur mourra. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime de la grâce et déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit « Si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. » Un vrai croyant peut facilement tomber dans le péché. Cependant, il ne restera pas dans son fumier parce que sa puanteur le dégoûtera. L'apôtre Jean écrit « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. » Dieu n'aime pas les squelettes qui traînent dans les placards. Pour cette raison, il éprouve les cœurs afin que ce qui est caché dans la vie de quelqu'un qui se dit croyant soit manifesté au grand jour. S'il nourrit en lui des penchants coupables, Dieu arrangera les circonstances afin qu'il soit soumis à la tentation. Alors, soit il la surmontera, soit il y succombera franchement. Dans le contexte d'une assemblée chrétienne, si l'un des membres tombe dans le péché, les autres croyants qui le côtoient et le connaissent sont responsables de l'avertir qu'il est en danger de jugement. S'ils ne le font pas, ils se rendent coupables à son égard et vis-à-vis de Dieu, car devant lui, nous sommes tous des pécheurs solidaires les uns des autres.